Notre grand Dieu, notre grand souverain, nous prosternons ta sainte présence, nous voulons te déclarer notre amour, notre joie d'être aussi présent aujourd'hui. Tu nous as fait grâce en nous donnant la vie, en nous exemptant la punition qui nous était due. Et tu nous as donné aussi, Seigneur, cette occasion de venir nous fortifier, venir nous construire chaque semaine. Tu nous as donné ces moments, cette journée que tu désirais qu'on consacre à ton adoration, qu'on consacre à l'étude de ta parole, à ta louange, Seigneur, et au chant, Seigneur, qu'on peut t'adresser, et aux requêtes qu'on peut t'adresser également. Ô notre Dieu, nous t'adorons, car tu la mérites grandement, cette adoration, à cause de ta grandeur, de ta perfection, à cause de ton amour, de ta patience envers nous. Aussi, nous voulons nous souvenir de Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a accompli sa mission avec tant de puissance, tant de merveilles, tant de gloire. C'est grâce à lui, Seigneur, grâce à son œuvre, qu'aujourd'hui nous avons la paix, qu'aujourd'hui nous savons que nos péchés sont pardonnés, que nous savons que nous vivrons avec toi pour toute l'éternité. Nous te rendons grâce aussi pour le Saint-Esprit, qui chaque jour nous dirige, nous guide dans notre vie, nous fait voir nos fautes, nos problèmes, nous fait toujours nous rappeler Jésus-Christ, nous enseigne toutes choses le concernant. Encore une fois, on veut te remercier pour l'œuvre grandiose du salut que tu as accompli pour chacun de nous. Comme nous avons l'habitude de le faire aussi, nous te demandons pardon. Nos péchés, du plus profond de nos cœurs, en pensant à ce qu'on dit, nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes. Nous reconnaissons que nous sommes faibles, pauvres et misérables, que nous sommes bons dans le péché avec facilité, malgré toute notre bonne volonté. Il y a même des péchés, Seigneur, que nous ne sommes même pas conscients. Nous te demandons pardon pour eux aussi. Et nous te demandons pardon pour les autres aussi, que tu fais remonter à notre conscience ce que nous avons commis dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions et aussi dans nos omissions. Seigneur, on te demande humblement pardon pour toutes ces choses. On veut retrouver notre pleine paix avec toi, notre pleine communion. Et nous te demandons de laver toutes ces souillures dans le sang précieux de l'agneau. Seigneur, rends-nous plus forts aussi pour lutter. Donne-nous d'haïr le péché avec plus de force. Nous te demandons, Seigneur, de permettre que cette semaine, nous puissions grandir encore. Et qu'il n'y ait pas une semaine, Seigneur, qu'il n'y ait pas croissance spirituelle pour ta plus grande gloire. Tu nous connais, tu sais où nous sommes. Tu connais nos hésitations, nos peurs, nos problèmes. Et Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié et miséricorde et de permettre que, malgré toutes ces choses, on puisse grandir et se rapprocher de toi, mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, mieux obéir à ta sainte direction par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous prions pour ceux qui vivent actuellement de la maladie, dont Richard, notre frère, nous te demandons de intercéder, c'est-à-dire d'intervenir, c'est-à-dire dans sa vie, c'est-à-dire, Seigneur, nous te demandons de guérir ce qui ne va pas dans son corps. Et nous intercédons également pour tous ceux qui, dans ton Église actuellement, vivent des problèmes de maladie, de quelque nature qu'elle soit, que ce soit de nature physique ou de nature psychologique. Nous te demandons d'avoir pitié et miséricorde, Seigneur, de mettre ta main guérissante sur eux, et leur donner du courage en attente de ton intervention. Nous prions pour les missionnaires, ceux que tu as envoyés partout dans le monde. Et que tu les fortifies, Seigneur, et que tu fais, et que tu fasses qu'ils soient vraiment des lumières dans leurs milieux respectifs. Nous te prions également, comme tu nous le dis dans la parole, nous te prions, Seigneur, d'appeler de nouveaux ouvriers dans ta moisson. Même en ces temps de la fin, tu peux te servir de personnes pour annoncer ton Saint-Évangile dans différents pays. Nous te demandons, Seigneur, d'en appeler encore d'autres, et même parmi nous ici présents, si tu veux de quelqu'un de nous. Nous prions, Seigneur, d'être avec nous ce soir et de permettre qu'on comprenne bien cette leçon si importante à laquelle on vient conformément aux Écritures déclarer que lorsque tu sauves quelqu'un, tu le sauves jusqu'au bout. Et que les véritables élus persévéreront et tu les protégeras, tu les préserveras jusqu'à ce qu'ils entrent dans le paradis pour l'éternité. On a besoin de comprendre ces choses avec force, avec puissance, sans aucun doute, afin de ne pas se laisser glisser vers de fausses doctrines. Au Seigneur, nous prions aussi pour nos frères qui sont un peu partout dans des églises non évangéliques ou d'autres dénominations, Seigneur, qui sont un peu engagés ou beaucoup engagés dans l'apostasie, dans l'écuménisme. Seigneur, nous te demandons de les éclairer, faire en sorte qu'ils connaissent la vérité et qu'ils s'en éloignent, qu'ils prennent les décisions dont ils ont besoin pour corriger leurs fausses décisions. Seigneur, bénis-nous ce soir et te demandons de permettre que cette leçon soit bien comprise et bien intégrée, parce qu'elle a des applications pratiques pour nos vies de tous les jours. Nous te demandons toutes ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.
Amen.
OK, ce soir, c'est... traditionnellement, on l'a toujours appelé la persévérance des saints. Mais moi, je lui donne un double nom, celui de la préservation des élus et de la persévérance des saints, parce que c'était un peu comme la doctrine de la foi et de la repentance. C'est des doctrines jumelles dont on ne peut pas les séparer. Ils vont ensemble. Parce qu'il y a l'élément de Dieu dans le salut, il y a l'élément responsabilité humaine. Ça ne veut pas dire qu'à cause que Dieu nous a sauvés, qu'on n'a absolument rien à faire, qu'on peut se laisser aller. Alors, il y a les deux aspects. Alors, si on veut distinguer, la préservation, c'est l'aspect divin dans le salut, tandis que la persévérance, c'est le côté responsabilité de l'homme qui a à se maintenir à l'intérieur de certaines barrières, s'il veut, marcher dans les voies de Dieu. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, c'est la plupart des versets que ceux qui vont dire que le salut se perd vont souvent se servir des versets où Dieu avertit ses élus. Alors, un avertissement, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va tomber dedans. T'sais, c'est un peu comme si je te dis, si tu vas à Montréal, pense pas porter le village parce que c'est en plein travaux, tu peux... Alors, si tu sais l'avance, tu vas éviter le village, je ne veux pas dire que tu vas tomber dedans, que tu vas exactement faire ce que je te dis de pas faire. Alors, c'est comme Dieu, quand il nous donne toutes sortes d'avertissements, faire ci, pas faire ci, pas faire ça, il faut suivre ses enseignements si on veut que ça fonctionne. Alors, la distinction, c'est vraiment des doctrines jumelles inséparables. Il faut voir l'aspect humain et divin. Maintenant, historiquement, on a toujours soit mis une suremphase ou une sous-emphase, et ça crée toujours des problèmes majeurs, peu importe où tu vas. Alors, si tu mets une suremphase sur la préservation, ça va amener l'être humain à changer la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement, dépendamment des versions. On va le voir comme titre 1-4. À titre, mon vrai fils, dans notre foi commune, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Non, j'ai changé la grâce de Dieu en dissolution, je ne l'ai pas. Non, c'est pas dans la titre. En tout cas, de toute façon, je me suis simplement trompé de verset ici. Là. Je vais le corriger tout de suite. Changer la grâce de Dieu en dissolution, c'est quelque part, je pourrais le trouver tantôt, si vous le désirez. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est simplement que si tu mets trop l'emphase que Dieu te préserve de façon absolue, sans que tu aies absolument rien à faire, sans que tu aies absolument aucun avertissement à tenir compte, c'est que l'effet normal de tout ça, ça va avoir pour effet que tu vas te porter à faire comme il y a eu, comme un petit peu l'histoire dont on racontait l'autre jour dans l'auto, la personne qui dit « Ah, j'ai volé, c'est parce que Dieu, de toute éternité, avait déterminé que j'aurais, que je volerais. » Le juge a répondu « Moi, de toute éternité, Dieu avait décrété que je te condamnerais à 10 ans de prison. » Alors, il ne faut pas se servir de la doctrine qu'on est sauvé, qu'on est préservé par Dieu, pour mettre trop une sur-emphase dessus, puis dire « Ah, peu importe ce que je vais faire, Dieu va m'emmener au ciel. » Alors, et une sous-emphase, ça a pour effet de nous donner une appréciation de la responsabilité humaine qui est injuste. On va le voir, par exemple, deux versets qui nous montrent les deux extrêmes. Comme quand on dit ces deux doctrines jumelles, on va voir qu'il y en a un qui nous dit que Dieu nous garde, puis il y en a un autre qui dit que nous devons nous garder. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Et quand on met trop l'emphase sur un ou sur l'autre, à quelque part, ça vient dérégler le système. 1 Pierre 1, verset 5, qui est à la page 328. On peut commencer même au verset 3 pour que ça ait un peu de sens, hein, parce que j'ai commencé à lire un verset quand on ne lit pas la phrase au complet. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Alors ici, on nous dit qu'on est gardé par Dieu, par sa puissance. Et on va aller voir 2 Pierre 1, verset 3 à verset 8. Et là, on va mettre l'emphase sur la responsabilité humaine. Donc, un nous présente la préservation de Dieu, et l'autre verset présente la responsabilité humaine de se garder dans les voies de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que, par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, ainsi, y apportant tout votre zèle. Alors, on voit la responsabilité. Toute votre zèle, je vous avais déjà expliqué dans le grec, c'est vraiment l'idée de faire ça avec la même intensité que les athlètes mettent pour gagner leur médaille. Dans le grec, là, c'est qu'on devrait lutter avec autant de force que les athlètes mettent pour gagner leur médaille d'or, nous, pour se préserver dans ce qu'il dit ici. C'est beaucoup, là, c'est Dieu nous confie des responsabilités. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car là, il dit, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu dit qu'il a tout mis à notre disposition pour qu'on puisse accomplir les choses qui concernent, on dit, la vie et la piété. La vie, c'est la vie spirituelle, la vie physique aussi. Puis la piété,
on l'a dit ce matin, la piété, c'est l'ensemble de nos devoirs qu'on a envers Dieu qui sont exprimés dans les quatre premiers commandements de Dieu. On a beaucoup de devoirs envers Dieu. Et Dieu nous a donné ici, par grâce, tout ce qu'on a besoin qu'on soit capable de le faire par nous-mêmes. Mais il dit de le faire d'une manière à ce qu'on soit zélé. Zélé en le faisant. Alors, on a une responsabilité à se maintenir dans les voies de Dieu. On va aller regarder. On va regarder les deux idées. Dieu préserve ses élus et après on regardera que les élus vont se préserver, vont se persévérer dans le... Dieu préserve ses élus. Donc, les élus de Dieu, quand ils reçoivent la vie éternelle, ils reçoivent la vie éternelle du moment qu'ils croient. Parce que la preuve de ça, quand on regarde, comme je sais pas, Jean 5:24, il ne dit pas « afin qu'ils aient la vie éternelle », ils ont la vie éternelle. Il y a beaucoup de verbes qui sont au présent. Ils disent que dès que tu crois en Jésus, que tu as reçu la grâce en Jésus, que où tes péchés ont été pardonnés, c'est que tu sais que tu as la vie éternelle dès cette terre. Alors, tu la reçois au moment de ta nouvelle naissance, l'assurance de ton salut, le fait que donc ta vie éternelle, à partir du moment que tu es sauvé, est déjà commencée. Il y a une petite partie qui va s'accomplir dans la vie physique, mais tu es déjà dans la vie éternelle, en ce sens que tu ne peux pas perdre ce que tu as. Alors, même si tu décèdes, tu vas en auto à soir, tu te lèves dedans, un autobus, tu meurs, mais ta vie éternelle, tu rentres tout dedans. Et tu l'avais déjà. Tu l'as pas eu parce que tu as eu ton accident. Tu l'avais déjà, tu t'es juste débarrassé de ton manteau de chair pour rentrer dans la vie éternelle. Et le fait que Dieu préserve ses élus, on est gardé, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset 1 Pierre 1:5, on est gardé par la puissance de Dieu. Alors, quand Dieu nous prend d'un point, nous amène à l'autre, et qu'il le fait par sa puissance, comment pourrait-on s'égarer? Comment pourrait-on se perdre dans un chemin où Dieu même nous garde par sa puissance? Alors, il y a des versets aussi qui nous disent que rien ne peut nous séparer de son amour. Dans Romains, on va aller voir tout à l'heure les versets. Là, je veux juste expliquer les grands principes. Tout à l'heure, on ira voir les versets. Rien ne peut nous séparer. Il nous dit dans Romains, tout à l'heure, on va le voir, ni la mort, ni les principautés, ni rien. Rien ne peut séparer de son amour. Et il y a des versets aussi qui nous déclarent qu'on a été scellés par le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Alors, on va aller voir une série de versets. J'en ai un champ et une barre, comme on dit. Alors, on va aller dans Ésaïe 43, verset 1 à 3. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel, celui qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne crains point, car je t'ai rejeté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne pour ta rançon l'Égypte, Cush et Chouba, et Séba pour toi. 54:10, c'est un petit peu plus loin. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne sera point branlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Jérémie 32:40. À ton parle, le Seigneur, il dit que je traiterai avec lui une alliance éternelle. L'alliance est prise des... Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me retirerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se détournent pas de moi. On voit un peu les deux aspects ici. Le Seigneur il dit qu'il va leur faire du bien, qu'il va traiter avec une alliance puis il ne se retirera plus d'eux autres. Puis après, elle dit qu'il va mettre la crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se détournent pas de lui. Alors il y a comme les deux aspects, Dieu et l'être humain qui participe, mais encore là, il participe, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors, dans le fond, tout est par grâce. Matthieu 18, verset 12 à 14. Il a dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et qu'il en ait une égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous dis en vérité qu'il y a plus de joie que des 99 qui ne se sont point égarés. Ainsi, la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ses petits qui se perde. Mais la volonté de Dieu n'y est aucun de ses petits et ses enfants. Est-ce que nous, comme êtres humains, on ne s'occuperait pas de nos propres enfants? Or, Dieu, dans sa puissance, dans toutes ses... OK, Jean 3,16. Jean, il a beaucoup d'argent. Jean 3,16, le verset le plus cité au monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est à remarquer ici que ce n'est pas aura, c'est a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors des fois, vu que les Écritures, chaque mot est inspiré, des fois, un article, le temps d'un verbe va être extrêmement important pour exprimer une certaine volonté. C'est pour ça qu'on ne peut pas traduire la Bible n'importe comment en changeant des mots pour respecter le texte original, les mots originaux, puis les traduire les plus fidèlement possible. Parce que il y a des fois, il y a des comme ici, si on aurait dit aura, ça n'a plus le même sens tantôt. Là, ça est en train de nous dire, Dieu nous dit, que si on croit au Fils, donc si on croit à Jésus-Christ, on a l'éternel, pas on aura. Jean 5, 24. En vérité, je vous dis, et on vous l'a déjà dit quand on étudie Matthieu, quand le Seigneur dit en vérité, c'est toujours parce qu'il veut mettre une emphase très, 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 une emphase importante sur ce qu'il va dire après. Je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 6, 35, allez jusqu'au verset 40. Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est assez puissant comme... Puis le verset 47 du même chapitre. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Même si on aurait juste ceux-là, on aurait amplement. On va en avoir d'autres. Jean 10, verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Nul ne les ravira de ma main. Il me semble que ça c'est clair. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 17, versets 11, 12 et 15. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. On voit ici la question de la préservation, gardée par Dieu. Pendant qu'ils étaient dans le monde, Jésus les gardait. Et parce que j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, parce que celui-là, il était déjà inscrit dans les Écritures comme de quoi il devait être perdu, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, on va aller dans le verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » On a ici la doctrine de la préservation par Dieu du malin, du monde, de nous-mêmes aussi. La chair, elle accomplit sa part. Romains 5, versets 8 à 10. Et, comme j'ai l'habitude de le dire, je le répète encore, c'est pas ici parce qu'on entend une série de versets sur un sujet que j'ai nécessairement vidé le sujet. C'est bien important, à chaque fois, je le répète, parce que là, je peux dire, j'ai pas vidé le sujet. C'est une longue étude, quelqu'un qui voudra faire une étude très approfondie sur la préservation et la persévérance des saints, il pourrait aller beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait. Je me souviens d'avoir déjà lu un livre qui était écrit par, je ne me souviens plus qui, là, et il disait que lui, dans sa vie chrétienne, à un moment donné, ça l'avait troublé, cette question-là. Il dit, ce que j'ai fait, j'ai pris sa Bible, puis il a tout pris les versets qui semblaient parler de la préservation et de la persévérance des saints d'un côté, et il a tout mis les versets qui avaient l'air à des avertissements de l'autre côté, et il dit que, après son étude approfondie, après avoir prié là-dessus, c'est devenu clair comme l'eau de roche pour lui que quand Dieu sauve, il l'amène jusqu'au bout, s'il est un véritable. S'il n'est pas un véritable, là, c'est autre chose. Qu'il y ait des personnes, à la fin des temps, qui vont apostasier. Ça peut arriver qu'ils apostasient, mais s'ils n'ont jamais été possesseurs du salut, ils apostasient, autrement dit, ils s'éloignent de la vérité, ils s'éloignent de la lumière, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient régénérés, ils n'ont jamais été régénérés. Puis Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, étant donc maintenant justifiés par son sang. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant donc réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 8.1. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si on prendrait le temps d'analyser le verset là, en profondeur, on verrait que ce que ça dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont, le mot-clé, c'est en. En Christ. Ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation pour eux. Romains 8, aussi, 29 et 30. Verset qu'on appelle The Golden Chain. Ici, là, c'est une évidence encore plus forte, car ceux qu'il a connus d'avance, ça nous replace dans l'élection de toute éternité, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Là, on voit une autre doctrine ici, c'est celle que quand tu es sauvé, il faut que tu marches pour devenir conforme à Jésus-Christ, sinon, tu fais mentir Dieu, parce que Dieu est en train de dire que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à Jésus-Christ. Autrement dit, il faut qu'il y ait transformation de ta vie, il faut qu'il y ait obéissance dans ta vie. S'il n'y en a pas, c'est peut-être tout simplement la preuve que tu n'as jamais été régénéré. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, là, t'as été prédestiné, ça s'est passé dans le ciel. Après ça, il y a eu un moment dans ta vie où Dieu t'a appelé. Appelé par l'appel irrésistible, par l'appel interne du Saint-Esprit. Il les a appelés. Et à partir du moment que t'as été appelé, t'as été justifié. On a vu ce que c'était la doctrine de la justification. Et ceux qui l'ont justifié, regarde le temps. Le temps de verbe a une importance primordiale dans ce verset-là. Pas pour rien qu'on l'appelle « the golden chain ». Ceux qui lui ont donné ce nom-là, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'il y avait dedans. Il y a cinq liens, il y a cinq maillons de la chaîne, pour pas rien, on dit qu'ils sont en or, parce que ça te fait voir que le salut commence dans l'éternité, et qu'à un moment donné, il y a l'appel, et à un moment donné, il y a la justification, et à un moment donné, c'est même relié à la glorification. Il garde le temps du verbe. Il les a aussi
glorifie. Aux yeux de Dieu, chacun de ses élus qui ont été régénérés sont déjà glorifiés.
Comment pourrait-on perdre quelque chose que Dieu nous a déjà donné? Dieu ne donne pas, puis il ne dédonne pas, là. Pas comme les hommes. Les hommes font ça, des fois, ils donnent quelque chose, et après ça, ils te leur demandent, tu sais. Je te l'avais donné, mais redonne-moi-le, tu sais. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, là. Dieu est fidèle. Une des principales caractéristiques de Dieu, c'est qu'il veille sur sa parole, comme je pense dans Jérémie, dit comme sur un amandier. Je suppose que l'amandier est un arbre très fidèle, parce que Dieu se compare à l'amandier. Alors, on voit ces versets-là sont extrêmement puissants ici. On pourrait justifier la doctrine de la préservation de Dieu et de la persévérance des saints juste avec ce passage. Puis c'est ça suffisant. Comme quand on dit, God said it, it settles it. Dieu l'a dit qu'on est déjà glorifié. Comment on peut perdre ça? C'est pas logique, ça ne tient pas debout. OK, 8, versets 29 et 30. On l'a lu?
Oui.
OK, 35 et 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction? Autrement dit, est-ce qu'on peut connaître des problèmes dans nos vies, des souffrances telles que ça va nous faire perdre notre salut? La réponse sous-entendue là-dedans, c'est non. C'est pas dit, c'est la réponse qui est sous-entendue. Sera-ce l'affliction? Ou l'angoisse? Ou la persécution? On sait que dans le cours de l'histoire, il y a des chrétiens qui ont vraiment souffert beaucoup par la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Alors, il est en train de te présenter presque tous les moyens possibles. Selon qu'il est écrit, « Nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ça c'est les anges méchants, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ encore par Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, versets 7 et 9. 7 à 9. De sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Une chance qu'il est fidèle. S'il n'était pas fidèle, on serait perdu. 10, 13. S'il faudrait se fier sur notre propre force, on serait perdu. 10, 13. Ici, il y a un verset important aussi, des fois considéré lorsqu'on est dans la douleur ou qu'on subit des tentations ou des choses. Dieu nous dit ici, « Aucune tentation ne vous est survenue qu'il ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Quand on est tenté, c'est jamais au-delà de nos forces. Et les Écritures nous disent qu'avec sa tentation, il nous envoie toujours aussi, en même temps, le moyen pour s'en sortir. Il dit, « Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. » Alors Dieu est sage dans sa manière de fonctionner. Et on ne peut jamais accuser Dieu que c'est à cause qu'il nous a envoyé une tentation qu'on est tombé, parce que la parole nous dit qu'avec la tentation, il nous envoie le moyen pour en sortir. Alors, si on n'en est pas sorti, c'est parce qu'on ne l'a pas utilisé. Mais, 2 Corinthiens 4, versets 14 et 17. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, c'est Dieu le Père, nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera comparaître avec vous. Verset 17, 2 Corinthiens 4, 17. Car notre légère affliction du temps produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Éphésiens 1, verset 5, 13 et 14. C'est ce qu'on appelle se faire inonder de versets. Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. Verset 13. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut et avoir cru en lui, vous avez été scellé Saint-Esprit qui avait été. Scellé, ça veut dire que tu mets un signe sur quelque chose. Quand il y a quelqu'un un signe sur quelque chose, on vient voir là-dessus. C'est scellé. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui l'ont acquis et la louange de sa gloire. 4:30, Éphésiens 4:30. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a été scellés pour le Saint-Esprit. Un sceau divin, dans le temps des rois, quand on regarde dans le temps biblique, là, on est en train de regarder les ministères dans ce temps-là. Là. Quand un édit du roi, une décision, un décret royal, et que le roi avait mis son sceau dessus, ça ne pouvait pas être changé. Les choses humaines, elles-mêmes. Quand le Saint-Esprit met son sceau sur quelque chose, ça veut dire que c'est irréversible, ça ne change pas. C'est gloire à Dieu. Ça change ça. OK, Colossiens 3, versets 3 et 4. Car vous êtes morts. Ici, il parle à des chrétiens qui sont vivants. Il leur dit qu'ils sont morts. Alors, de quoi il parle? Il parle de mort. Car vous êtes morts et votre vie, notre vie spirituelle, notre vie éternelle, est cachée où? Avec Christ en Dieu. C'est dur d'aller fouiller là. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On est en Christ. Christ est au ciel, nous est ici. Comment on peut être séparé de lui? Parce que lui est en Dieu. C'est ce que c'est en train de dire. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Peut-être plus clair que ça. 2 Timothée 4, 18. On est en train de dire, quand on dit, quand on dit qu'on perd notre salut, on est en train de dire que Dieu va manquer son coup. Il va nous sanctifier, mais il va manquer son coup. Quand on est en train de nous dire, c'est ici les versets nous disent que Dieu va nous sanctifier tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, et Dieu est fidèle et il le fera. On est en train de dire. Ah ben là, moi, si je prends la petite barre, je peux parler de ce que Dieu m'a donné. Je vais mettre la vie. C'est blasphématoire. C'est blasphématoire ou du moins de la grossière ignorance. Le moins qu'on puisse dire, c'est de la grossière ignorance. 2 Timothée 4, verset 18. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera dans son royaume céleste. Hébreux 9, verset 12 et 15. On est en train de parler de Christ comme de souverain sacrificateur, où on dit qu'il est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. On va voir le verset 15. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. 10, 14. Et il y a des versets qui sont... c'est des versets... Regarde 10, 14, là. C'est extrêmement fort. Car par une seule oblation, ou vraiment dire un seul sacrifice, une seule offerte, une seule offrande, car par une seule oblation, il a rendu parfait. Alors, 10, 14, car par une seule oblation, il a rendu parfait pour deux jours. Oups! Ah non, pas pour deux jours, c'est pour toujours. Oh! Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, ceux que le Père a régénérés par le Saint-Esprit et qui sont en Christ, Dieu nous dit qu'il nous a rendus parfaits à ses yeux. Pourquoi qu'on est parfait à ses yeux? Parce que nos péchés qu'on devait payer, c'est son Fils qui les a payés à notre place. Et l'obéissance parfaite qu'on devait à la loi, c'est encore Jésus le Christ qui l'a payé à notre place. C'est pour ça qu'on est parfait. Il nous voit comme étant parfait. Il te voit comme ayant fait la vie de Jésus-Christ sur la terre, l'obéissance qu'il a accomplie à la loi, à la perfection. Il te voit comme si tu l'avais fait toi-même. C'est pour ça, des fois, quand on a des doutes face à notre salut, il faut repenser à ça et se mettre face à Dieu en repensant que nous sommes recouverts de la robe de justice de Christ. Et quand on a péché, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de confesser nos péchés. De le confesser, il nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, on retrouve... Quand on pêche, qu'on fait, on perd pas notre salut. On perd notre communion avec le Père. Perdre la communion, c'est un peu comme... l'exemple qu'on prend d'un père de famille. Un père de famille joue avec sa petite fille, puis il s'amuse comme un petit fou, sa petite fille. Il a bien du fun avec. À un moment donné, sa petite fille a fait une grosse bêtise. Son père est obligé de donner une tape. Il donne une tape sur la main parce qu'on va pleurer en sa chambre. Alors là, il y a perte de communion. Est-ce que ça veut dire que le père n'aime plus sa fille? Est-ce que ça veut dire que la fille n'aime plus son père? Alors quand la petite fille revient, ben, elle n'est plus de père. Puis le Père leur prend dans son bras, ça fait quoi? Ils retrouvent leur communion. Mais nous, dans le péché, c'est exactement la même chose, mais à un niveau beaucoup plus profond. Et beaucoup, ça nous redonne notre paix, à ce moment-là, ça nous redonne. C'est pour ça, dans le fond, que quand on va se présenter devant Dieu pour prier, ce qui est toujours bon, c'est avant de prier, qu'on ait cette confession de nos péchés à Dieu, pour retrouver, ou avant un culte, de confesser nos péchés, pour que on retrouve cette pleine communion avec Dieu. C'est important. Donc, on a vu Hébreux, qui est rendu 12-28. Hébreux 12-26. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que... Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à manifester dans l'éternité. 1 Jean 2, versets 19 et 25. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dieu nous a promis quelque chose. Et Dieu nous dit que ceux qui ne demeurent pas, c'est parce que ce ne sont pas des nôtres. C'est ça que tu dis. 1 Jean 5, verset 4. Ici, il nous apprend quelque chose. Parce que tout ce qui est né de Dieu, on a dit, est en train de dire que les régénérés vont être victorieux du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des combats, qu'on ne peut pas avoir des pertes, qu'on ne peut pas avoir des chutes. Mais on nous dit que dans l'ensemble de notre vie, on va être victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Versets 11 à 13. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Il nous a donné la vie éternelle et la vie qu'il nous a donnée
est dans son Fils et nous sommes en lui. C'est comme si on avait un ancre et notre ancre est ancrée en Christ dans le ciel. Alors que Paul l'accorde est inconvenable. On le dit 11-13-20. Puis 12, ok, qui a le Fils? Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez. Faites bien là. Écoute. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Il parle à des enfants de Dieu, puis il veut qu'ils sachent qu'ils ont la vie éternelle. Il insiste afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas que vous aurez, que vous avez. Ok, Jean, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. Jude 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Versets 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tâche et dans la joie en sa glorieuse présence, à Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Moi, je ne sais pas si ça vous convainc, mais moi, pour moi, c'est amplement suffisant, très amplement suffisant. Maintenant, on va regarder que Dieu a confié aussi aux hommes des responsabilités face à se maintenir dans ses voies. Donc, la persévérance, c'est quelque chose, la préservation, c'est la part de Dieu, mais la persévérance, c'est, on pourrait dire, la responsabilité de l'homme, mais c'est encore une fois par grâce de Dieu qu'il l'a. On va le voir Jean 8, 31. Alors, les élus vont persévérer, mais ça va être encore une fois, la persévérance est requise, mais c'est encore par grâce. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. » Alors ici, il semble que Dieu nous dit que un des signes qui va démontrer qu'on est un véritable disciple, c'est quand on demeure dans sa parole. Demeurer dans sa parole, ça ne veut pas simplement la dire, la lire une fois par jour. Demeurer dans sa parole, ça veut dire vraiment avoir ton cœur dans la parole de Dieu et obéir à Dieu et considérer que c'est Dieu qui parle et considérer que tu as des devoirs envers lui d'obéissance et de respect et d'adoration et de tout ce qu'il te demande de faire. C'est ça, demeurer dans sa parole. C'est pas juste là, lire un passage par jour puis de voir là-dedans comme une espèce de rite magique là, que si tu lis la parole, sourire. Être dans la parole, ça veut dire la parole de Dieu pour toi, que ça soit plus qu'un livre ordinaire. Ou que ça soit le matin quand tu lis ça, ou le soir, ou peu importe le moment de la journée dont tu le lis, il faut que tu considères que c'est Dieu qui parle. Dieu veut quelque chose de toi. Demeurer dans sa parole, ça veut dire vraiment là, une vie d'obéissance le plus parfaite possible à sa parole. Jean 15, verset 9. Alors, on a un devoir face à la parole de Dieu. C'est pour ça que la plupart des grands chrétiens qu'on connaît, qu'on peut nommer, disons, des noms, John Gill, tout ce qu'on connaît, là, qui nous montre à l'esprit comme ça, là. Si tu lis leur histoire, si tu vas voir, c'est tous des hommes qui étaient extrêmement, fortement attachés aux Écritures. Ils l'ont étudié, ils l'ont médité, ils l'ont prié, ils l'ont appris par cœur. Il y a des personnes, on dit que d'Arthur Pink, par exemple, qui était capable de citer des grands passages de la Bible par cœur, des grands passages. Et même, apparemment, que Chrysostome, on le disait qu'on l'appelait le Golden Mouth, ou la bouche d'or, aurait su toute la Bible par cœur. Moi, j'ai déjà calculé, juste pour le fun, j'avais fait un exercice à un moment donné, j'avais calculé combien ça me prendrait de temps, puis combien de personnes faudrait que j'apprenne par jour pour arriver à exercer quelque chose comme ça. Me semblait que c'était arrivé à quelque chose comme fallait que j'apprenne 10 versets par jour pendant 20 ans. Mais alors que j'étais, disons, je vis jusqu'à 75 ans, il me reste 20 ans, tu prends l'ensemble des versets, tu divises par ton nombre d'années, tu divises par le nombre de jours, ça faisait 10 versets par jour. Pour que quelqu'un se tape 10 versets par jour puis le retenir, puis apprendre 10 versets pour une journée ou deux, ça s'obtient, mais pour le garder, c'est plus que ça. Alors, il faut vraiment que quelqu'un soit plongé dans ses écritures, il faut que ça devienne comme une obsession. Que ça devienne comme... Et Dieu dit que quand on plonge dans ses écritures avec cette force-là, Dieu dit qu'on va être heureux. Je me souviens d'avoir lié à l'école publique, je m'en souviens encore. Je ne l'ai pas fait encore, malheureusement. Mais il y avait un homme qui disait qu'il avait lu, le, je pense, c'est Psaume 1. Il voulait être heureux, Dieu. Dans la Bible, c'est marqué « Heureux l'homme qui fait ci, heureux l'homme qui fait ça, qui plonge jour et nuit, qui regarde la parole, et qui médite, et il sera planté comme un arbre auprès des courants d'eau. » Dis-moi, je prends ça au mot. S'il met à le faire, et il dit après, c'est vrai que Dieu promet le bonheur à ceux qui vont faire ça. Et si tu fais ça, tu vas l'avoir le bonheur. Parce que comme enfant de Dieu, tu ne peux pas trouver un plus grand bonheur qu'à être dans la parole de Dieu et d'en vivre et d'aller chercher tout le sucre qu'il y a dedans, puis toute la matière qu'il y a dedans, puis la lumière qu'il y a dedans, puis l'amour qu'il y a dedans. Alors, la plupart des chrétiens ont une vie spirituelle face à la parole de Dieu qui est insuffisante. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on les fait. Plus on va mettre de temps en parole, ça va avoir un lien direct avec la qualité de ta foi et la qualité de ta vie spirituelle. Ça, là, il n'y a pas personne qui va demander ça de la tête. Ça, c'est un fait. C'est réel. Et plus une personne va se rentrer ça dans la tête, et plus une personne va mettre ça en pratique, plus elle va être un chrétien rayonnant, un chrétien plein de joie, un chrétien... Même s'il est plein de problèmes, il va quand même garder sa joie, parce qu'il va savoir que c'est Dieu qui lui envoie ça. Il va comprendre pourquoi Dieu lui envoie des choses comme ça. Donc, on a vu qu'il était rendu 15 dans le 15 là. Il dit, comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Alors, demeurez dans son amour, demeurez dans sa parole, on voit qu'on a quand même une certaine responsabilité. Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. Alors, on a vu tout à l'heure la part de Dieu, mais on voit aussi que Paul était un grand apôtre et demandait, je ne sais pas si c'est Paul ici, de toute façon, pas d'importance, c'est que quelqu'un demandait aux chrétiens d'être fidèle en demeurant attaché au Seigneur. Alors, on a quand même une responsabilité, nous, comme quand on voit qu'il y a un lien entre la qualité de notre vie spirituelle, notre vie de prière, etc. Alors, on sait que si on ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas, que Dieu va nous l'offrir pour autant. Mais, on va être plus fort si on le fait, ce qu'on voit. On va être dans l'obéissance. Matthieu 10, 22. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. 1 Corinthiens 15, 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez, on parle de l'Évangile. Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. L'Évangile, faut-il le garder tel que Dieu l'a annoncé? Si tu changes, si vous auriez cru en vain. Mais l'importance d'être certain de croire la bonne chose. Colossiens 1, 21 à 23. Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui, saint, sans tache et irrépréhensible, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlable, n'abandonnant point l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, tu as été prêché à toute créature sur le ciel, dont moi, j'ai été fait ministre. Alors, on voit une certaine responsabilité de l'homme de demeurer dans la vérité, de demeurer dans l'Évangile. Hébreux 10, verset 23. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 26 du 20 chapitre. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Comment on a dit quelqu'un qui dirait sauvé, puis qui passerait ses journées, sa vie, à continuer de pécher sous prétexte que Dieu a payé pour ses péchés, ce serait comme une indication qu'il pêche volontairement. Pêcher volontairement, là, c'est de dire, ok, Dieu a payé mes péchés, donc tu es sauvé à 15 ans. Arthur, let's go, mes péchés sont pardonnés. Ça prouverait quelque chose, c'est qu'il n'est pas sauvé. Parce que Dieu nous a dit qu'il va nous sanctifier lui-même, corps, esprit et âme. Si quelqu'un fait ça, c'est la preuve qu'il ne l'est pas sauvé. Il abuse de la grâce de Dieu. Il change la grâce de Dieu en dissolution. C'est ce que les Écritures disent. Et Hébreux 12, verset 14 et 15. Et ici, il est important aussi, regardez ce qu'il dit. Rechercher, c'est un ordre. Z, c'est un verbe impératif. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez ça, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'une personne qui est vraie et véritablement sauvée, elle va chercher elle-même à se sanctifier. Et si tu ne le fais pas, le Seigneur il dit que c'est un signe que tu n'es pas sauvé si tu ne le fais pas. Parce que si tu es sauvé, tu vas le faire. Rechercher la paix, il dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, veillant à ce que personne ne se prise de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. 12, 14, 15. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Et verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Maintenant, la persévérance est requise, mais là aussi la persévérance est assurée. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le péché, c'est notre foi. 1 Jean 3, 9. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Maintenant, la persévérance doit être accomplie. On a vu dans Jonas 2,10, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne faut pas mal interpréter le verset en pensant qu'un chrétien ne peut pas pécher. Ce que ça dit, c'est que le chrétien, dans le déroulement normal de sa vie, dans le gros, on pourrait dire dans le fil directeur, le fil conducteur de sa vie, ça va être plus la sanctification que du péché. On a dit, il ne vivra pas, il ne pratiquera pas le péché d'une manière constante. Maintenant, les élus de Dieu vont persévérer parce que Dieu les préserve par son esprit. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, ô Père. Abba, pardon, ça veut dire petit papa d'amour. C'est comme si tu disais à ton père, petit papa d'amour, ô Père. Alors, c'est comme il a envoyé un esprit, l'esprit de Dieu qui vit dans notre cœur, qui est le Saint-Esprit, et qui sait qu'il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, ô Père. OK, 5.22. Et on voit ici que quand le Saint-Esprit est envoyé dans nos cœurs, ça va porter du fruit. Le fruit, ça nous dit ce que ça va être. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité ou l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Philippiens 1, 6.
Celui-là aussi, ça devient un puissant.
Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quand Dieu commence quelque chose, il sera au bout. Il n'est pas comme les hommes. 2.13. Philippiens 2.13. Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Alors, non seulement Dieu fait sa part en nous préservant de toute part, nous emmener jusqu'à lui, mais il nous laisse quand même une certaine part de responsabilité. Mais encore là, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors, nous, on peut demander à Dieu. D'ailleurs, il nous a dit qu'il nous a tout donné qu'on avait besoin pour contribuer à la piété et à la vie spirituelle. Alors, nous, notre responsabilité, c'est juste de demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour, demeurer dans la réalité, puis continuer. Puis dans le fond, ça encore là, il nous le donne par grâce, c'est lui-même qui nous donne ça dans son amour. Maintenant, on a aussi, par son esprit, donc on persévère parce que Dieu nous préserve, par son esprit, il nous préserve aussi par sa parole. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Romains 8, 13. Il nous dit, en effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. 1 Corinthiens 5, 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, il semblerait que certains hommes peuvent pécher et que le Seigneur peut venir les chercher avant leur temps. Comme qui est à la fois une rétribution, une manière de... C'est Dieu t'aime au point que si tu es vraiment le sien et que tu sombres dans le péché, Dieu, comme tu lui sais, tu es livré à Satan de la destruction de la chair, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça veut dire que, par exemple, on peut avoir connu des chrétiens qui, à un moment donné, ont tombé dans le péché, ils ne semblaient pas être capables de se relever. Et le Seigneur peut permettre qu'il meure. Il meure parce que Dieu sait que s'il laisse vivant, ils vont pas blasphémer son nom, mais ils vont salir son nom. Ils vont être des mauvais témoignages. Et Dieu, par miséricorde, il vient les chercher, il vient leur révéler. C'est vraiment une miséricorde de Dieu. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. On voit qu'on a quand même une certaine responsabilité. La Bible est pleine de commandements à notre égard. 24, le même chapitre, 5, 24. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Alors, on voit que ça s'exclut mutuellement la vie de débauche. En pensant que Dieu te fait grâce de tes péchés, parce que Dieu dit, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Alors, c'est mutuellement exclusif. 4:25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant, en mon absence, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Travailler votre salut, ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose à faire nécessairement, qu'on peut obtenir le salut par nos œuvres. C'est pas notre vie sainte qui va nous accorder le salut. Mais travailler avec le salut, ça veut simplement dire par ta vie, organise-toi par la fidélité à Dieu, en la prière, dans les témoignages, dans la parole de Dieu, dans l'assistance au culte, par tous les moyens de grâce que Dieu met à ta disposition. Organise-toi pour que tu aies l'assurance de ton salut, dans ce sens-là, de travailler à ton salut. Parce qu'on ne travaille pas comme tel pour notre salut. C'est simplement une manière de dire que plus on va se servir des moyens que Dieu a mis à notre disposition, plus on va être dans la certitude de notre salut. OK, Tite, Tite 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce temps, en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Et on ne peut pas, quand on est chrétien, dire sous prétexte que nos péchés sont pardonnés, vivre dans la dissolution. C'est complètement à l'opposé de ce que les Écritures enseignent. C'est d'ailleurs pour ça qu'au cours des siècles passés, quand le calvinisme était enseigné, c'est une des principales oppositions que l'Église catholique ou d'autres églises avaient. Disaient, ben là, tu es en train de dire à votre monde là, que, OK, ils sont saints, puis ils ont été pardonnés de tous les péchés de Dieu, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils voyaient ça, ils appelaient ça antinominianisme. Antinominianisme, ça veut dire simplement contre la loi. C'est en train de dire, oh, OK, à ceux qui sont chrétiens, qui savent qu'ils ont été pardonnés, ils vont vivre d'une manière contre la loi de Dieu. Au contraire, la parole nous dit que quand on va devenir chrétien, on va de plus en plus aimer la loi de Dieu, puis de plus en plus on va aimer à s'y conformer. C'est-à-dire, nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est tout ce qui est nos devoirs envers Dieu. C'est-à-dire que si on n'accomplit pas nos devoirs envers Dieu, on est des impies. Ça nous dit qu'il faut renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. C'est plus clair que ça. Jean 2, 20. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Comment on dit, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'une foi qui est vivante, elle va s'exprimer. Il va sortir des œuvres de ça. Parce que Dieu nous a créés en Christ pour qu'on produise des œuvres. Alors, si quelqu'un a une foi qui ne produit pas de fruits, il ne se focus, il ne lit pas sa Bible, il ne prie pas, il ne témoigne pas, il ne fait rien de ce que Dieu lui demande. Jean est en train de dire que la foi, sans les œuvres, une foi. Moi, je prends toujours l'exemple de la fleur de plastique, de la véritable fleur. Tu vois, dans certaines boutiques, là, il y a des fleurs qui ressemblent tellement à des vraies fleurs que si tu les plantes dans la terre, tu en plantes et puis il y a une vraie côté, tu ne sauras pas les distinguer l'une de l'autre si tu tiens à la moindre distance. Mais les chrétiens, c'est la même chose. Il y en a qui vont avoir des signes extérieurs de piété, mais dans le fond, ils n'ont pas de vie. La vie, une fleur de plastique, ça n'a pas de vie. Mais un chrétien qui n'est pas régénéré, il n'a pas la vie en lui. Alors, c'est normal que sa foi, en guillemets, ne produise pas d'œuvre. Parce qu'il n'est pas vivant. Le Seigneur nous a dit que si on demeurait en lui, de la même manière que les branches sont attachées au cep, sont attachées aux arbres, les branches sont attachées. Si tu demeures attaché au cep, tu vas porter du fruit. Parce que la sève va passer à travers les branches. Et nous, on est attachés à Jésus. Jésus, il ne fait que ça, porter du fruit. Alors, si on demeure attaché à lui, notre vie va démontrer du fruit pour toutes sortes de choses. On va être transformé, on va arrêter de sacrer, on va arrêter de brûler, on va arrêter de fumer, on va se mettre à aimer les gens, on va changer de comportement, on va arrêter de compter les menteries, on va arrêter de voler, on va arrêter, etc. On va essayer de plus en plus vivre en conformité à ce que Dieu nous demande. On va aller à 1 Jean 2,4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point dans lui. Et Dieu t'avertit, là, il dit que celui qui dit « Je l'ai connu » alors celui qui se dit « Oui, il prétend qu'il a connu Dieu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur. C'est Dieu qui dit « Et la vérité n'est point dans lui. » Puis verset 15 du même chapitre,
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 3-3.
1 Jean 3-3.
On parle de celui qui a de l'espérance en Christ. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. 4-15.
1 Jean 4-15.
Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle on va demeurer, on va persévérer, c'est le fait du ministère d'intercession de Christ. On sait que Jésus, quand il monte au ciel, il est maintenant auprès du Père, il intercède pour les siens. Alors, une des raisons qui va faire qu'on va moins tomber ou être plus fidèle, ou être, ça va être parce qu'il intercède pour nous. Alors, Jean 17, verset 11, « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » On va voir aussi dans Hébreux 7, 25, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur dans ces choses-là, là, le ministère d'intercession de Christ. Hébreux 7, 25, ce seul verset-là suffirait, là. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça veut dire que Jésus est auprès de Dieu, actuellement il est Dieu lui-même, il intercède pour nous auprès du Père, continuellement. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on va persévérer. Maintenant, c'est toujours sur la base de l'œuvre de Christ. On va aller voir un verset ou deux là-dessus, Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie, qui les condamnera. Christ est mort, et de plus, il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Alors, c'est sur la base de son œuvre qu'il est venu accomplir sur la croix, en prenant leur péché à leur place, en payant la punition qui leur était due à leur place, et aussi en accomplissant la loi. Maintenant aussi, c'est basé sur les promesses de Dieu dans la Nouvelle Alliance. On va aller voir Hébreux 8, versets 6 à 12. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été faite sans défaut, il n'aurait pas eu lieu d'en établir une seconde. Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non une alliance comme celle que je fis avec leur père, au jour où en les prenant par la main, je les tirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. Or voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Verset 12. « Et aucun n'enseignera plus ni son prochain ni son frère en disant, « Connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, parce que je serai apaisé à l'égard de leurs injustices, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Dans la nouvelle alliance de Dieu. Maintenant, un autre moyen que Dieu va utiliser pour nous maintenir dans ses voies, dans la persévérance, c'est la discipline. Hébreux 12, 6. Hébreux, la discipline, c'est simplement que Dieu va nous corriger, comme un père corrige son fils. Et heureusement qu'il va nous corriger. Et là, on va commencer à 5. Il dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. » Alors, c'est un autre moyen que le Seigneur, on a dit la parole, on a dit l'amour, on a dit demeurant en Christ, on a dit les œuvres, etc. Un autre moyen, ça va être la discipline. Et le dernier, non le moins, c'est l'exécution de son dessein éternel. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le Golden Chain, ça commence dans l'éternité et il nous prédestine, il nous justifie, il nous glorifie. Alors, le salut est une œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je voulais juste vous terminer en disant, je ne sais pas si on va le temps de le lire, peut-être pas,
je vais juste le mentionner pour ceux qui voudraient le faire. Un petit livre qui s'appelle 1689 Confession de foi réformée baptiste, où on a ces vérités-là qui sont exprimées de façon intelligente par des théologiens qui ont réfléchi avant d'écrire. Donc à la page 42 à 43, on a par exemple toute la position de la foi qui sauve, la différence entre la foi qui sauve et la foi qui est une fausse foi. La repentance, la même chose, page 44 à 45, la repentance vers la vie, le salut. On a la même chose pour les œuvres bonnes, versets 46, 47 et 48. On a la même chose pour la persévérance des saints, page 49 et 50. Et on a l'assurance de la grâce et du salut, page 51 et page 53. Alors l'assurance de la grâce et du salut, on va lire rapidement. Les croyants temporaires et les autres hommes irrégénérés peuvent vainement s'imaginer par de faux espoirs et de présomptions charnelles avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu et être sauvés. Leurs espoirs seront déçus. Par contre, dès cette vie, ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus l'aiment sincèrement et s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent avoir l'assurance certaine d'être en état de grâce et se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. Il y a une série de versets. Je vous lis juste le texte parce qu'il y a des versets qui justifient chacun des phrases. Cette assurance n'est pas une simple conjoncture ou une opinion probable établie sur un espoir douteux, mais une infaillible certitude de foi, établie sur le sang et la justice de Christ révélée dans l'Évangile, et aussi sur les preuves internes de ces grâces de l'Esprit auxquelles les promesses sont faites, et sur le témoignage de l'Esprit d'adoption, attestant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur à la fois dans l'humilité et la sainteté. Cette assurance infaillible n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai chrétien peut-il attendre longuement et se battre avec maintes difficultés avant de l'avoir. Ça veut dire que l'assurance de la foi, ça fait pas partie de l'essence de la foi, si vous voyez ce que je veux dire. Il dit aussi, un chrétien peut-il attendre longtemps et se battre avec maintes difficultés avant de l'avoir. Cependant, étant rendu capable par l'Esprit de connaître les dons gratuits que Dieu lui a faits, il peut y parvenir sans révélation extraordinaire par le seul bon usage de moyens. On a vu tout à l'heure certains moyens, c'était que prier, lire la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, etc. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de s'appliquer à affermir sa vocation et son élection, afin d'avoir ainsi le cœur empli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour et de reconnaissance envers Dieu, de force et de bonne humeur dans les tâches de l'obéissance, le fruit même de cette assurance qui est bien loin d'incliner au relâchement. Et la dernière, chez les vrais croyants, l'assurance de leur salut peut, de diverses façons, être ébranlée, diminuée et temporairement perdue. S'ils négligent de la préserver, s'ils tombent en quelque péché particulier qui blesse leur conscience et attriste l'esprit, s'ils subissent quelque tentation soudaine ou violente, si Dieu leur retire la lumière de sa face et même permet que ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres sans avoir aucune lumière. Cependant, ils ne sont jamais privés de la semence de Dieu et de la vie de la foi, de l'amour de Christ et des frères, d'une sincérité de cœur et de la conscience de leur devoir, grâce auquel, par l'action d'esprit, cette assurance en temps voulu peut être ranimée et par lesquels, en attendant, ils sont préservés d'un total désespoir. Je recommande fortement à quelqu'un qui peut se procurer ce petit livre-là de le lire d'une page à l'autre. C'est vraiment la doctrine telle que crue par les théologiens calvinistes de cette époque-là et qui sont encore des vérités. Alors, ça nous aide à vraiment structurer notre pensée et à voir qu'est-ce qui est la vérité. Et c'est rempli de citations. Chaque fois qu'on dit une phrase comme ça, tu vois, là, il y a toujours, vous avez des petits numéros, il y a toujours des versets qui correspondent. Alors, c'est très riche de lire ces choses-là et ça fortifie notre foi. De s'attacher à lire ces choses-là, à essayer de les comprendre, à demander à Dieu de nous donner.
Alors, la doctrine de la préservation des élus et de la persévérance des saints, c'est vraiment une doctrine fondamentale qui est rattachée au jour de point et elle ne peut pas être détachée. Tout ça se tient et c'est vraiment quelque chose qui est cohérent. Et quand on comprend vraiment, à partir du début, on voit que c'est vraiment une chaîne qui tout est ensemble, on ne peut pas enlever un point sans déranger l'ensemble du système. On va terminer par en priant. Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir permis ce soir d'étudier cette doctrine de la préservation par ta sainte personne, de nous-mêmes et aussi de la part que nous avons à jouer par notre responsabilité en obéissant à ta sainte parole et en utilisant tous les moyens que tu as mis à notre disposition pour demeurer dans la piété, dans la sainteté et pour que notre vie soit pleine de fruits. Et c'est de cette façon, Seigneur, que nous pourrons te rendre gloire et honneur. Et encore une fois, on te remercie pour cette leçon. Et nous te prions pour cette semaine, afin que tu nous bénisses et que tu permettes qu'on grandisse et qu'on accomplisse encore une fois les œuvres en ton nom, pour ta plus grande gloire. Nous te demandons toutes ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.